Peut-être que nous pouvons commencer par donner la parole aux intervenants s'ils veulent se poser mutuellement des questions, réagir les uns par rapport aux autres. Et puis ensuite, nous verrons les questions qui ont été déposées. Alors, je propose, si les intervenants d'abord veulent poser des questions aux autres intervenants ou réagir, et puis ensuite, on donnera la parole à cette noble assemblée. Et puis, il y a déjà des questions qui ont été écrites.
Mais c'est tout bref, c'est pour remercier beaucoup Père Michelin pour la magnifique conférence qu'il a donnée. Et à raison, il a fait remarquer que le concept, en tout cas, ou le mot de loi naturelle n'est pas très, très fréquent dans le document, enfin, dans l'ensemble des documents de Vatican II. Et alors, c'est la question où vient, c'est que vous avez fait allusion à, me semble-t-il, à une interprétation anthropologique qui est introductive à Vatican II, si j'ai bien compris, une anthropologie plutôt, comment dire, interrogative, inquiète. Et je voulais vous demander, est-ce que par là même vous posez implicitement un diagnostic et ou un jugement par rapport à la question de la loi naturelle en laissant entendre que cette anthropologie, disons, de l'homme inquiet, déchiré, interrogatif, n'est qu'un aspect de l'anthropologie chrétienne et que la loi naturelle aurait quelque chose de plus stable. Et donc, Vatican II serait représentatif, et je crois aussi, avec ses raisons dans l'actualité, d'une anthropologie plus inquiète. Et la loi naturelle, elle militerait plus pour une stabilité, une universalité, etc. Voilà,
merci beaucoup. De fait, la formule « Vous avez les questions, nous avons les réponses », c'est un slogan de banque. C'est pas, la devise chrétienne. C'est la devise chrétienne, c'est « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube ». Or, la question de la loi naturelle et de la nature, en fait, et du rapport entre la nature et la grâce, c'est considérablement durci dans le langage ecclésiastique romain, catholique, latin, à partir du XVIe siècle, en fait. Donc il n'est pas tellement étonnant qu'il y ait comme un surinvestissement dans des lignes de vocabulaire qui, pour défendre une identité par rapport à une autre à l'intérieur même du christianisme, finissent par devoir être mises en perspective. Il me semble ça, c'est du point de vue historique, c'est clair. Or, de fait, c'est vraiment ce qui s'est passé dans l'élaboration de Vatican II, si on le commence à partir de juin 1959 jusqu'à décembre 1965. Alors, moi, je ne dirais pas du tout que l'anthropologie proposée par Vatican II dans Gaudium et Spes est anxiogène ou même anxieuse. Parce que là, je m'en suis tenu au diagnostic. Je ne suis pas allé dans les affirmations. Mais il y a une chose certaine aussi, c'est que en la choisissant tripartite, le sujet singulier, le sujet social, enfin, et le sujet responsable dans l'histoire, trois dimensions coessentielles de la personne humaine, de la personne de l'homme, Gaudium et Spes nous invite à quand même secouer assez fortement l'espèce d'identification que nous faisons entre personne et individu, par exemple. Et donc à repenser des choses assez profondément. C'est sur ce cadre de pensée plus profonde que, alors, pour le Concile Vatican II, dans le cadre de sa foi, évidemment, le verbe ou la parole qui se fait langage corporel assume, purifie, fortifie, épanouit et, comment dire, parachève cette dimension dynamique de la loi naturelle. J'insiste un peu sur le terme de purifie. C'est pas la loi naturelle comme telle qui a besoin d'être purifiée, mais nous n'en avons d'expérience que dans une forme de contraste. Étant entendu que nous ne connaissons pas la manière dont est sortie des mains de Dieu l'humanité, en fait. Pour les chrétiens, le plus bel exemple de la nature sortie des mains de Dieu, c'est Jésus, en fait. Mais Jésus, nous ne le connaissons que à partir du moment où il a pris sur lui notre péché. Et donc nous connaissons la générosité incroyable de la beauté de la personne humaine sous la forme déjà partiellement défigurée du Christ, en fait, dont nous ne verrons le visage de gloire qu'à la fin des temps. En ce sens, nous attendons la révélation plénière du Christ dans sa gloire et donc de notre humanité à nous. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à votre question. Pas trop anxieux, mais pas de placebo à l'anxiété. L'angoisse n'est pas un péché, c'est une dimension chrétienne, parce que Jésus a dit qu'il a été rempli d'angoisse. Donc nous n'avons pas à nous laisser manipuler par Nietzsche, qui voudrait que le sourire commercial béat soit le signe distinctif de ceux qui croient dans la résurrection des corps.
Moi, j'avais une petite question de compréhension sur la conférence du Père Étienne. Au fond, l'homme, en voulant s'affranchir des contraintes naturelles, on pourrait dire, on arrive à constater des conséquences sur l'environnement. C'était l'exemple des poissons, là. Comment est-ce que l'homme va réagir sur ce constat parce que l'homme paraît plus préoccupé au fond de l'équilibre écologique à l'heure actuelle que d'écologie humaine, finalement. Est-ce qu'il va réagir en se questionnant lui-même, ou bien en poussant ses investigations toujours dans le sens de la biologie, ou bien de découvrir de nouvelles molécules qui feront que peut-être la pollution sera moins visible, et dans ce cas-là, on reporte à nouveau... On produit d'autres conséquences qu'on va découvrir ensuite, etc. Ça me paraît être, au fond, peut-être un indice, mais insuffisant pour que l'homme s'interroge sur, au fond, sur les permanences dont tu as parlé, au fond, qui sont incontournables.
Oui, c'est vrai que la permanence est une réalité, mais qui n'est visiblement porté par aucun sujet, puisque le sujet humain fait l'expérience de son impermanence à la fois dans son origine et dans son terme, en tout cas dans ses relations telles qu'elles sont accessibles. Pour la foi chrétienne, c'est un peu différent. Donc il y a une continuité de la vérité, mais il y a aussi une vérité de la discontinuité. Et... Il me semble, mais ça serait vraiment un sujet qui mériterait un colloque à soi tout seul, que nous sommes sur la véritable et magnifique interrogation du tout et de la partie, de l'individu et du groupe, qui traverse finalement toutes les sagesses, et qui apporte des éléments à la vie quotidienne et aussi au terminus ad quem, vers le terme où nous allons. Et le catholicisme, sur ce plan-là, a des intuitions. Ce qui me semble, en tout cas, c'est que une société, de toutes les façons, ne se renouvelle que parce qu'il y a des petits très faibles. Si on appelle liberté une manière d'asservir le petit très faible, en fait, d'en faire un objet de droit, alors cette société est morte. Enfin, elle va mourir, quoi. Donc la première loi de la survie d'une société, c'est l'attention prioritaire aux petits très faibles. Autrement, elle ne se renouvelle pas. Donc parler de liberté dans le domaine que j'ai à peine évoqué, qui n'est qu'une... Voilà, à mon avis, c'est déjà une véritable question. On pourrait parler aussi d'un formidable machisme médicamenté. On pourrait parler de beaucoup d'autres, de façon tout à fait autre de ces choses-là. Donc, jusqu'où cela ira-t-il? Combien de temps devrais-je vous supporter? A dit Jésus, n'est-ce pas? Combien de temps devrais-je rester avec vous? Alors, comme il a promis qu'il serait avec nous pour toujours, eh ben, bon courage à lui. Et, mais bonne aussi, interrogation pour nous, quelle est la juste attitude? Et suivant nos engagements, nos compétences personnelles, sociales, professionnelles, qu'est-ce que nous pouvons ici et maintenant, dans la relation qui nous constitue avec nos alter-ego immédiats? Est-ce que nous renonçons à affirmer sous prétexte que c'est pas que ça nous fait prendre un risque pour notre carrière ou pour ci ou pour ça, et peut-être nous avons le devoir de le faire? C'est un monde extrêmement complexe, et sans doute que nous n'en aurons pas fini des complexités.
Oui, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit en évoquant deux choses. D'abord un verset biblique au chapitre 1 verset 28 de la Genèse, on nous dit que l'homme doit dominer le poisson, les oiseaux, mais on commence sur le poisson. Et dans la tradition rabbinique, on nous dit que le mot a en fait une ambivalence. Il peut dire effectivement dominer, et c'est Rashi qui nous le dit, dominer s'il le mérite. L'homme peut dominer la nature et les poissons dans la nature s'il le mérite. C'est-à-dire que déjà, on place sa domination sous l'aune ou la critique d'une morale, en fait, c'est-à-dire le mérite. Et s'il ne le mérite pas, eh bien c'est le poisson, c'est la nature qui le dominera. Hein, autrement dit, il sera, c'est ce que dit Rashi, il sera plus bas que les animaux et plus bas que la nature. Il y a dans ce midrash la question, je crois, très profonde qui vient d'être posée ce matin, mais je voudrais simplement faire écho par ce midrash de l'importance du respect de la nature qui nous est donnée, de dominer, mais de quelle manière nous la dominons-nous? C'est-à-dire, quel est le sens que nous lui donnons lorsque nous intervenons en elle? Et bien sûr, tout cela reprend le passage du sixième au septième jour. Il ne s'agit pas pour le septième jour de détruire les six jours qui le précèdent.
Il me semble, vous abordez quelque chose qui est splendide. Et j'avais essayé de travailler un moment, mais je ne suis pas doué en hébreu du tout, la racine avoda. Eved Avoda, parce que j'avais remarqué que ça dit à la fois serviteur, travailleur, premier ministre, ça dépend du cadre. Et puis ça signifie aussi finalement, ça débouche dans la liturgie du temple. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très important pour notre activité. Notre activité n'est pas destinée à nous cacher derrière les arbres du jardin, mais à trouver les chemins authentiques par lesquels nous pouvons, en montant sur les arbres s'il faut, ou en cueillant les fruits, enfin ce qu'on peut, pas les autres. C'est-à-dire, il y a quelque chose du mouvement là qui nous porte à rendre gloire enfin. Et finalement, le poisson, le lapin et même les huîtres peuvent chanter la gloire de Dieu. Enfin, il y a une espèce, je sais pas, l'homme comme c'est beaucoup été touché de la façon dont vous avez interprété le pluriel, faisons l'homme à notre image, comme si tout d'un coup on entrait par la porte de l'ombre, donc de la modestie, de la discrétion, de l'attention à l'altérité, etc., mais dans un mouvement qui nous conduit finalement à achever ce que nous appelons nous achever la création dans un acte d'offrande en fait. Je ne sais pas si... Voilà. Et alors, pour les chrétiens, c'est ce qu'on appelle, nous, communément, le sacerdoce commun des baptisés, le sacerdoce royal. Et alors là, on est transfrontière, en quelque sorte, parce que qui n'a pas besoin de recevoir et d'offrir dans l'existence, enfin? Et finalement, le lieu où l'on peut recevoir et offrir en réalité, c'est-à-dire en vérité et en sincérité, qui va de vérité en vérité, c'est le lieu de la liberté la plus belle pour la personne humaine, quoi. J'étais très ému ce que vous avez dit sur la question de l'éducation aussi. Quand aux parents échappe la possibilité de créer ce biotope dans lequel les enfants vont entrer dans ce mouvement d'offrande réciproque qu'on appelle l'amitié, quoi, finalement. Comme on est malheureux. Et comme ce monde, finalement, est malheureux, ne serait-ce que parce qu'il offre un ballon de foot, indépendamment de l'OM, que j'aime beaucoup, ou un ballon de rugby. Et c'est ça, en fait. Enfin, je ne sais pas.
Pour rebondir de nouveau, hein, mais je suppose que d'autres rebondiront avec nous. Je voudrais rappeler ceci, peut-être simplement prendre aussi certains symboles qui sont très importants et qui sont très parlants à mon avis. Prendre au sérieux, avec Lévinas d'ailleurs aussi, le fait que dans le sanctuaire du désert, comme je l'avais dit hier, il y a deux chérubins qui se font face et que finalement ce permanent que nous cherchons, ou cet absolu qui nous hante, ne parle que dans ce face-à-face. Il y a peut-être là, justement, l'expression... Enfin, j'essaye de réfléchir, essayer de faire une proposition, en fait. Est-ce que la loi, ce qu'on appelle la loi naturelle, ce n'est pas précisément, ou cette permanence que nous cherchons, ce n'est pas de l'ordre d'un appel qui nous dépasse, mais que nous ne pouvons expérimenter réellement que dans la responsabilité d'un face-à-face. Et c'est dans cette responsabilité que quelque chose nous parle et nous interpelle, quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité, pour nous lancer sur les routes de l'histoire. Ceci dit, et ça je crois que c'est important, ce symbole-là, ou cette qualité de la relation-là, doit être préservée par le temple, c'est-à-dire par le religieux. Et pourquoi le religieux? Un peu comme dans le texte biblique, l'homme est mis dans le jardin d'Éden pour le travailler et le garder. Vous avez la notion de le ovda ou le shomra. Travailler précisément, hein, et garder. Le travail ou le culte, hein, c'est précisément le culte ou le travail de l'humain pour élever l'humain à cette réponse à l'appel divin qui en lui se cherche. Mais bien sûr, le culte est fragile parce qu'il est au cœur du politique. Et le religieux est toujours et sans cesse confronté au politique. C'est aussi la politique, mais ce n'est pas seulement la politique. Et à ce monde humain qui risque toujours de nous emporter dans sa folie. L'exemple biblique de ça, c'est Pharaon, c'est l'esclavage en Égypte. Vous avez le même mot, Eved, hein, qui est l'esclave, et le culte, qui est la sortie de l'esclavage. Mais c'est en traversant la possibilité toujours inscrite dans l'humain et dans la patte humaine politique de l'esclavage que je peux essayer de construire une sortie de l'esclavage. Je n'ai jamais fini ce travail. Je répète ça toujours. Pourquoi on nous oblige chaque année à sortir d'Égypte à nouveau par le rite? C'est parce que nous n'en sommes jamais complètement sortis. Et je crois qu'un des défis précisément des religions monothéistes, c'est de témoigner par le rite, par le religieux, d'une qualité de la relation que le politique risque sans arrêt de noyer dans l'urgence qu'il essaye de nous faire passer pour des besoins immédiats. Je pense que c'est une des pistes de réflexion. Si nous cherchons une loi naturelle, effectivement, c'est une loi en devenir, beaucoup plus que, vous l'avez très bien dit ce matin, un dynamisme de la recherche, d'une permanence qui s'offre à nous dans la question plutôt que dans la réponse. Et je termine sur un passage dans le livre de l'Ecclésiaste. « Oulai yesh tikva » pour faire réponse à ce que vous avez dit, écho à ce que vous avez dit ce matin, « Peut-être y a-t-il de l'espoir ?»
Je vais peut-être prendre deux questions écrites qui sont liées à la conférence de ce matin. Une première, vous avez souligné la différence d'approche entre la tradition catholique anticoncilière et l'approche conciliaire concernant la loi naturelle. Vous n'avez évidemment pas prononcé le mot de rupture. Cependant, j'aimerais que vous reveniez brièvement sur le rapport différence et aussi continuité à propos de la problématique loi naturelle. Et une deuxième question par rapport à cette conférence, mais aussi adressée à M. Ruberecht. En lien avec ces deux conférences, ne voudrait-il pas mieux parler de projet naturel au lieu de loi naturelle?
Merci. Je ne pense pas avoir parlé de tradition catholique anticoncilière. J'ai parlé de modalité d'expression. C'était une volonté expresse de Jean XXIII de consacrer tout le travail conciliaire à une élaboration du langage. Et c'est de fait ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Donc, c'est toujours la même chose au fur et à mesure que l'Église rajeunit, elle a besoin de changer de paire de lunettes. De même que nous, au fur et à mesure que nous vieillissons, nous avons besoin de changer de lunettes. Pour voir la réalité à la fois dans sa source, le mystère de Dieu autant que possible, et voir la réalité dans son terme, ou dans les destinataires, c'est-à-dire nous-mêmes et le monde. Donc Vatican II opère un changement de paire de lunettes. Ça ne fait aucun doute. Et c'est pas parce qu'on change de lunettes qu'on change d'œil, ni de nerf optique, ni de cerveau, ni même d'objets qu'on regarde. Alors, bien sûr, je n'ai pas parlé de rupture, mais il faut aussi parler de différences très importantes qui nous invitent à vraiment interroger à frais nouveaux ces fameuses évidences sur lesquelles nous nous basons tous et que nous sommes bien incapables d'expliciter et donc nous ne pouvons pas les partager. Par exemple, simplement Dieu agit. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'agir? Qu'est-ce que vous mettez sous le mot Dieu? Et donc nous fonctionnons, je vais me mettre à la première personne du singulier. J'ai la tentation de fonctionner à partir de réalités que je suis supposé connaître et dont je déduis des conséquences plus facilement pour les autres que pour moi d'ailleurs. Voilà. Et donc ça, le Concile Vatican II a dit stop à ça, arrêtez ça. Et il l'a fait de la même manière que le premier Concile de Jérusalem l'a fait, lorsqu'il s'est dit, mais au fond, qu'est-ce qui est essentiel pour être disciple du Christ uniquement? Eh bien, analogiquement, le Concile Vatican II a opéré une vraie purification. Alors du coup, évidemment, quand on taille un arbre, on fait tomber des branches. Si mon nid est sur cette branche, j'en veux un peu à celui qui la coupe. Reste que comme je suis un petit oiseau, je m'envole, et grâce à la taille, les fruits vont pousser sur l'arbre, et je pourrais me nourrir et construire un nouveau nid. À nous de savoir si nous voulons rester dans le nid qui est tombé, hein, parce qu'on y est bien, ou bien prendre le risque d'un coup d'aile pour aller nous nourrir et construire la maison dans laquelle Dieu nous appelle à vivre.
Donc projet naturel plutôt que loi naturelle, pourquoi pas? Sûrement pour une raison effectivement de vocabulaire, le mot loi est un mot qui est devenu un mot valise, donc il comprend en lui énormément de sens différents et même parfois contradictoires. Donc spécifier le mot loi naturelle par projet naturel, oui, à condition donc qu'on sépare, je dirais, le projet à inscrire dans la création en tant qu'elle est en attente, qu'elle est encore inachevée, donc qu'elle est en attente d'un plus. Voilà, à ce niveau-là, je serais tout à fait d'accord. Quand on dit en attente d'un plus, c'est la question dont on parlait ici, aujourd'hui. Comment bâtir ensemble une société juste? Je trouve très symptomatique que dans une question qui est typiquement chrétienne, qui est celle de la loi naturelle, vous ayez fait place et un juif et un musulman. Je trouve que c'est déjà là un acte tout à fait positif dans un questionnement qui est intérieur, d'accepter qu'il y ait de l'autre, des autres. Et donc je crois que c'est dans ce sens-là qu'effectivement il faut travailler, non pas donc se poser des questions pour soi-même et seulement au quant à soi, mais d'être capable dans ce questionnement intérieur de s'ouvrir à des questionnements différents et de les affronter. Il y a là quelque chose, je crois, de l'ordre du messianisme en acte, et justement de ce qu'il ressort de ce projet que nous avons de construire une société juste. C'est-à-dire qu'il laisse place à chaque modalité propre de l'humain dans son essai de réponse face à l'interpellation divine.
Je voudrais ajouter que probablement la question loi, dans le contexte en tout cas de l'Europe occidentale, mais pas que, n'est peut-être pas... disons, l'enjeu le plus urgent, l'enjeu le plus urgent, c'est nature et culture. Parce que quand même, il y a des lois qui sont faites pour affirmer la dissociation enfin obtenue entre la culture et la nature. Et c'est là que se joue le problème, et je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai cru comprendre en réfléchissant un peu à partir de Vatican II que cette question du rapport entre nature et culture, en fait, se joue sur deux points. La question de l'activité humaine, donc du travail. Et on ne peut pas oublier que toutes les conceptions courantes en Europe occidentale de la notion de travail sont très liées à la grille marxiste, hegélienne, de l'activité humaine, hegélienne et kantienne. Donc ça pose des questions fortes très fortes. Par exemple, il y a un petit bouquin de l'ami de Jean-Paul II, là, le tout petit bouquin qui s'appelle « Le loisir au centre de la culture ». Piper, de Joseph Piper, qui montre comment Kant, en inventant le concept de travail intellectuel, a formaté quelque chose dans l'activité de la raison. Donc nous fonctionnons avec des grilles d'analyse dont nous n'avons pas encore réaliser une épistémologie réelle, sont-elles, oui ou non, biblicaux ou compatibles avec nos textes sacrés, quels qu'ils soient. Et nous fonctionnons, y compris dans l'interprétation de nos textes, avec des outils dont il faudrait quand même un jour se poser la question, parce que la plupart d'entre eux, je parle ici pour les chrétiens, sont bâtis sur des systèmes épistémologiques ou philosophiques qui, de fait, utilisent des concepts qui se sont sauvagement échappés de la synthèse chrétienne et qui donc apparaissent comme excessivement pertinents. Donc ça, c'est la question du travail. Et la deuxième question, c'est la question de la relation interpersonnelle. Et il me semble que ces deux points permettent de voir comment il est fou de vouloir penser la libération de la nature considérée comme donnée contraignante par la culture. Mais je ne suis pas du tout sûr que nous ayons les outils suffisamment adéquats pour contribuer à ce travail. Personnellement, j'en suis pas sûr. Voilà, maintenant j'ai dit tout ce que j'avais à dire.
Moi, j'ai été frappé aussi que cette question du projet revenait dans différentes interventions, aussi dans l'intervention d'Abdesalem, qui nous disait que dans l'islam, l'homme est perçu comme étant entre la mémoire et le projet, hein, et donc un chemin. Et ça m'a fait penser justement à ce passage dans le livre des Proverbes. Alors c'est la traduction française, mais je pense que ça dit quelque chose de juste. À l'homme les projets, au Seigneur la réponse. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais c'est le Seigneur qui pèse les cœurs. Expose ton action au Seigneur et tes plans se réaliseront. Et donc dans cette notion de projet, on est obligé de faire intervenir le Seigneur. Il y a la loi, il peut y avoir quelque chose de froid, où on est quitte de l'application de la loi. Dans le projet, il y a quelque chose qui nous échappe, qui est devant nous. Et il me semble qu'il y a peut-être justement quelque chose à creuser de ce côté-là, et qu'il y a place justement pour l'échange, pour le dialogue dans un projet commun. Voilà, je ne sais pas si Abdesalem veut réagir par rapport à ça.
D'accord. Je veux pas. Ok. Je veux d'abord confirmer et prolonger la droite esquissée par mon ami Étienne lorsqu'il parle d'une herméneutique, d'une interprétation des textes vraisemblablement polluée par un certain nombre de paradigmes, de concepts dans lesquels nous baignons. Mais pourra-t-on faire autrement, mon ami? Je ne pense pas qu'un texte soit séparable d'une herméneutique, laquelle doit être fatalement, nécessairement imprégnée par les paradigmes du moment. Sinon, on ne sera pas des humains. Et d'où la nécessité d'établir ce distinguo, cette séparation stricte entre nos textes, nos révélations sainte, pure et purifiante, et notre interprétation, ou très souvent mes interprétations, et mise en pratique et circulation de ces textes, prétendent détenir la vérité de ces textes. C'est une illusion, c'est une prétention. Voilà. Donc, l'homme est censé évoluer, prendre comme asymptote, au sens mathématique, ces données de la révélation sans jamais prétendre les atteindre. le fin mot de l'histoire ne sera prononcé que par le dernier homme. Tant qu'il y aura des générations d'hommes, le texte, la révélation, ne se dévoilera pas entièrement. Sinon, il sera consommé par une génération et les autres générations qui viendront après nous n'auront rien à dire sur ces textes. C'est problématique. On traite les textes comme on traite l'environnement. Dans l'écologie, les vers nous disent que la civilisation d'aujourd'hui agit comme si elle était la dernière à vivre. Nonobstant, ne faisant aucun cas des générations à venir. Avec le texte aussi, il faut qu'il y ait une certaine écologie. Moi, quand j'interprète mon texte, je ne prétends pas dire le fin mot, n'est-ce pas, l'entièreté de la profondeur sémantique de mon texte. Donc, je me contente d'essayer de faire de mon mieux pour approcher ce que Dieu veut que je fasse ou que je ne fasse pas. Voilà pour une première réponse qui conforte mon ami Étienne.
Est-ce que dans la salle, quelqu'un veut peut-être poser une question et ça brûle la langue et...
Merci. Monsieur Thibault Collin avait évoqué trois étapes. Et puis, dans l'une de ces étapes, de comment on devient personne, il disait « je me reçois comme personne ». Après, c'était l'étape de l'accueil, puis de la autodétermination. Donc, un premier point donc, qu'il avait... évoqué, c'est le fait que je me reçois comme personne. Monsieur Abdesalem Suki avait aussi mentionné le fait qu'il s'agit pour nous d'abriter le souffle de Dieu. Et puis, dans ce processus d'abriter le souffle de Dieu, avez-vous dit, monsieur, si j'ai bien compris, il y avait une sorte de soumission de l'homme passionnel à l'homme spirituel. Donc, ce que je vais retenir de votre intervention, c'est le fait d'accueillir, d'abriter. Monsieur Edouard Roberech avait dit aussi que l'homme est né au cœur de l'appel divin qui le précède. Donc, vous, enfin, tous les trois, vous avez évoqué cette réception. Est-ce qu'il n'y a pas un point commun dans nos anthropologies? Voilà, je ne sais pas si j'étais claire.
Merci beaucoup.
Oui, alors il faut se méfier toujours des ressemblances trop évidentes. Hein. Mais je pense effectivement, vous avez bien souligné ici le point commun, si vous voulez, mais je pense la réception, effectivement, elle est inscrite dans nos trois religions, dans le sens où nous sommes tous dépendants d'une parole que nous recevons. Hein, bien sûr, on l'inscrit au niveau de l'anthropologie de manière plus précise, avec des distinctions qui sont importantes. Mais là, je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a au moins au départ un accord à ce niveau-là. Faut voir les modalités, bien sûr. Sur le fait que l'homme ne se crée pas de lui-même et qu'au contraire, il reçoit quelque chose qui est vital pour lui, qu'on appelle la parole divine, de l'extérieur. Maintenant, bien sûr, qu'est-ce que ça signifie pour chacun? Comment ça rentre effectivement dans l'histoire de chacune des communautés? Les chemins sont multiples. Je vais le dire d'une autre manière, mais ça, c'est pour reprendre, si vous voulez, un raisonnement de la Kabbale, mais je crois que c'est très important. La source est unique, mais les manières de recevoir sont multiples. Et nous n'avons pas d'autre manière de recevoir que d'être nous-mêmes, c'est-à-dire d'interpréter déjà, dans la manière dont je reçois, la même source, mais qui n'est jamais la même pourtant. Et vous voyez donc, effectivement, il faut, je crois que le lieu où on peut se rencontrer, c'est précisément lorsqu'on a conscience que cette source qui nous dépasse est capable seule de nous relier dans le lieu où elle nous dépasse. Et que je suis perdu dans la relation interreligieuse lorsque je pense que je détiens quelque part la source et qu'elle ne me dépasse plus.
Donc, le thème de cette table ronde, c'est comment bâtir ensemble une société juste. Alors, si Dieu veut quelque chose, il faut vouloir le réaliser. Et le lieu où on veut des choses en commun, c'est la politique. Et donc, nécessairement, si nous croyons que Dieu veut quelque chose, nous devons nous engager d'une certaine manière. Et ce qui nous est reproché par ceux qui ne sont pas représentés ici, donc la libre pensée ou les athées, c'est que justement nous intervenons en politique avec une espèce d'agressivité qui est légitimée parce que nous voulons ce que Dieu veut. Alors, dans le christianisme, il y a un grand frein à cela, c'est la parole de Jésus, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc nous, le Christ affirme que le politique a une certaine autonomie qui nous empêche d'y aller avec cette agressivité qui voudrait qu'on soumette les autres à ce que nous croyons être le projet de Dieu, quoi. Mais je voulais demander à M. Robrecht et M. Swicki, est-ce que dans vos compréhensions, dans vos religions, il y a aussi un fondement qui fait qu'il y a une réserve quand on s'approche du politique. Voilà. Je suis désolé de parler comme ça, c'est comme si nous les chrétiens on avait quelque chose que vous n'avez pas. Mais justement c'est l'occasion de voir qu'est-ce qui nous rassemblerait quand nous nous engageons en politique.
Merci beaucoup. Messieurs, ils préfèrent le mien.
On nous reproche d'être agressifs. Parce que très souvent, toute conviction est agressive. Dans un monde où on prône le relativisme et l'abolition de la transcendance, il est évident que toutes sortes de foi est assimilée au dogmatisme, à la virulence et à l'agressivité. Voilà, et d'où la nécessité pour le croyant de prendre ça en considération et de d'intervenir en matière de politique avec tact et avec élégance, quoi, sans jamais céder à la passivité, à l'attentisme. Voilà une première. On m'a interpellé justement par rapport à l'absence des musulmans à ces manifestations anti-mariage homosexuel. Et j'ai dit, je pense que les musulmans, ici en France comme ailleurs, sont très attachés à la famille. Pour nous, c'est une valeur centrale, et beaucoup de familles, beaucoup, sont prêts à déscolariser leurs enfants si cette fameuse théorie du gender, du genre, arrive vraiment à se mettre en place. Sauf que, par les temps qui courent et par cette islamophobie en partie invétérée et en partie mérité aussi par rapport à un certain nombre de caricatures données par les musulmans eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas voulu parasiter, si vous voulez, le débat sur le mariage homosexuel, quand bien même ils se sont sentis rangés catégoriquement du côté des opposants, bien sûr. Voilà. Et donc, après, reste la manière de mettre en application ce genre de partenariat, de collaboration et de coopération étroite entre les différentes confessions et spiritualités, justement, pour mettre des choses en commun.
Merci de votre question. C'est une question importante. Elle me permet de rebondir. Je répondrai par une métaphore, le corps politique. L'importance du corps, de la corporéité, pour répondre aussi sur la question auparavant de la relation entre nature et culture, la mégalomanie actuelle fait penser effectivement que nous sommes une pure âme qui est simplement volonté et que tout peut être soumis à la volonté. Et donc nous pousse à penser que nous devenons immortels, nous pourrions devenir immortels sans corps. Or, il y a du corps, et notre corps est ce qui nous met en relation avec la nature dont on a si longuement parlé, qui nous fait qui fait de nous une partie du monde. Donc le corps politique est précisément aussi cela. Alors dans la tradition juive, donc le corps politique dans le sens précisément où c'est le lieu d'un travail à même le corps, mais qu'on n'a jamais fini. Parce que c'est une prise en compte aussi de la logique interne de ce qui fait le corps et aussi le corps politique. Au niveau de la tradition juive rabbinique, il y a très peu de textes intéressants de réflexion sur le politique. Il y en a un dans la Mishnah et puis deux grands commentateurs du Moyen-Âge qui en parlent. Et tous sont d'accord sur la chose suivante, c'est-à-dire que le politique a une autonomie qui ne peut pas être soumise immédiatement au projet religieux de la Torah. Donc, on vous le dit, vous trouvez ça dans la Mishnah, le roi ne peut pas être jugé par la Torah. Donc, il a une autonomie juridique propre, ce qui est le cas aujourd'hui, par exemple, si vous allez dans l'État d'Israël, vous avez deux lois, la loi laïque, qui est parfois plus laïque qu'en France d'ailleurs, et la loi religieuse. Bien sûr, il y a des tensions. Il ne s'agit pas du tout de dire que les domaines sont séparés et qu'il n'y a pas de relation entre l'un et l'autre. C'est juste l'inverse, bien sûr, puisque le même mot est utilisé, ce sont deux juridictions, si vous voulez, deux lois, et que donc il y a bien conflit. Mais c'est un conflit qui doit être accepté. Je vous donne un exemple, mais qui nous permet de réfléchir. Au niveau de la loi religieuse, il n'y a pas de doute que la prostitution est interdite, elle ne doit pas exister. D'accord ? Mais au niveau juridique, politique, ben il faut faire quelque chose pour ces personnes qui sont dans la rue et qu'on ne va pas laisser sans outils juridiques pour les protéger. C'est un vrai problème. Et vous voyez qu'il y a bien une dualité et une tension entre le projet et ce que veut le niveau religieux et puis ce qui s'inscrit réellement dans l'histoire. Donc il faut prendre en compte cela. Parce que sinon, on devient fou, effectivement. Je reprendrai le verset que j'avais cité hier de Michée. Vous voyez que, par opposition à Isaïe, dans les temps eschatologiques, les nations continueront à avoir leur Dieu, c'est-à-dire leur valeur propre. Quand on parle des nations, c'est-à-dire que chaque nation politique reste avec sa propre logique. Le problème, c'est précisément que cette logique ne doit pas se fermer sur elle-même en s'empêchant de s'ouvrir, grâce aux religieux, à une éthique universelle. Et c'est là le travail que nous avons à faire en tant que rite religieux, c'est-à-dire en tant que travail, non plus seulement un travail asservissant au corps politique lui-même, mais essayer d'élever le corps à l'expression éthique qui se cherche en lui, sans le nier, lui. Et les religieux, à ce niveau-là, ont un travail de fond, par rapport à elles-mêmes d'abord, pour fonctionner convenablement. Mais c'est pour ça que je pense que les relations interreligieuses sont fondamentales, parce que ça nous permet de nous interpeller sur des sujets cruciaux où se pose la question de l'avenir de nos sociétés. Comment faire résonner un appel éthique divin dans nos sociétés respectives en le traduisant à travers le religieux que nous constituons, c'est-à-dire à travers notre témoignage quotidien. Et c'est là que ça se joue, bien sûr. Est-ce que nous sommes crédibles ? Il ne s'agit pas seulement de croire, est-ce que nous sommes encore crédibles dans le message que nous essayons de porter ?
M'est revenu à la mémoire que rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu a une histoire à l'intérieur de la fabrication des textes conciliaires autour de la question des rapports entre l'Église et l'État. Et puis à un moment, ils se sont dit, mais ça ne va pas fonctionner comme ça, parce que dans le contexte où Jésus est, César est un dieu. César est divinisé. Et donc c'est la question, pas tellement des champs de compétences, mais des prétentions. Et c'est très intéressant qu'en débloquant cette affaire, ils ont pu sortir d'une analyse Dieu César. Alors les catholiques, là, il faudrait qu'on se lave plus blanc que blanc, parce que le sabre et le goupillon, le pouvoir religieux, le pouvoir, etc. Enfin, on a pas mal de choses dans notre histoire qui sont intéressantes, qu'il faut pas oublier. Il faut pas les oublier, parce que perdre notre mémoire, c'est perdre notre capacité de projeter aussi. Mais donc, c'est cette chose-là qui a permis de poser des bases un peu différentes qui réagissent, qui refluent sur beaucoup de domaines du dialogue, entre autres interreligieux, mais aussi avec le politique. Donc, ne pensons pas trop vite qu'il y a un parallèle entre César et Dieu. Pour la raison que César est créé par Dieu comme moi, et pour la raison aussi que César est pécheur comme moi, mais pas comme Dieu. Et donc il y a une réflexion à penser sur la conversion du politique, la transformation. Et c'est très exigeant. Et voilà, non pas pour le faire entrer dans le religieux, mais pour qu'il renonce à une prétention qui le ferait Dieu. Ou qu'il refuse d'assumer des fonctions qui sont proprement les siennes. Donc c'est compliqué, ça.
Merci. Je voulais un peu prolonger la question qui a été posée par là-devant sur ce qu'on aurait à faire ensemble, finalement, pour montrer ce but qui est Dieu, et nous en Dieu, et l'humanité en Dieu, et de transposer cette action, ces actions communes, cette orientation commune dans le politique. Et ma question, je me demande si c'est pas dans le service du plus faible, justement. Moi, j'étais assez frappée par ce que vous avez souligné, le père Étienne, sur l'attention aux très faibles. C'est ce qui, finalement, est source d'espérance. Parce que croire qu'on va vers Dieu et dans cette communion en Dieu, pour moi, ça s'appelle l'espérance. Enfin, il n'y a pas de foi sans espérance dans ce sens-là. Et il me semble que dans chacune de nos religions, et même au-delà, dans ce que nous, on appelle les hommes de bonne volonté, donc qui ont une volonté bonne, on peut se retrouver et témoigner par rapport à des dynamiques qui sont destructrices de l'espèce humaine elle-même, de notre esprit et de l'avenir de l'homme. On peut témoigner de ce sens que l'on donne par le service du plus pauvre, du plus faible, de celui qui a le sentiment d'être écrasé, de ne pas être partie prenante de ce mouvement de l'histoire et de la pensée. Et donc je voulais vous demander si vous pensez que c'est juste.
Oui, alors merci beaucoup pour cette remarque. En effet, c'est tout à fait pertinent, et ça me fait penser à quelque chose du professeur Jérôme Lejeune, qui dit que le degré de développement d'une civilisation devrait se mesurer à la manière dont on protège le plus fragile. Et il me semble que c'est tout à fait juste, et ça correspond au fond à l'identité de Dieu. Parce que le premier à se préoccuper du plus fragile et du plus faible, c'est Dieu lui-même. Et au fond, on trouve dans l'islam aussi, il y a la zakat, l'impôt, qui est destiné, au fond, je crois, à secourir les pauvres. Et il y a aussi, bien sûr, dans le judaïsme, toutes ces paroles des prophètes. Jean-François en a cité plusieurs. On pourrait aller dans ce sens pour montrer que il y a ce souci. Alors, il faudrait faire l'étude pour voir si c'est vraiment généralisable et universalisable, mais ça me paraît l'être. En tout cas, dans le christianisme, c'est très évident, avec notamment l'option préférentielle pour les pauvres, hein, dans la doctrine sociale de l'Église, qui affirme cette attention particulière de l'Église pour les plus pauvres et les plus fragiles.
Je voudrais rebondir. Il y a un verset dans l'Exode, c'est entre le chapitre 22 et 24, « Ne rend pas glorieuse la face du pauvre dans son jugement. Hein? » Autrement dit, le pauvre est aussi critiquable. Le statut de pauvre ne fait pas d'une personne quelqu'un d'intouchable, ni le modèle de la société. Il faut comprendre, au contraire, mais là je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, ça revient toujours, c'est comme chez les prophètes, hein, la veuve, l'orphelin, l'étranger, etc. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que toute société politique, lorsqu'elle se forme selon un modèle, produit de la marge, et inévitablement produira toujours, là je suis anti-messianique, hein, mais produira toujours des marges. Parce que le modèle, aussi parfait soit-il, hein, on a parlé de la perfection aussi, ne peut pas se construire sans faire des choix et donc produire des marginaux. Eh bien, la qualité d'une société, c'est là que les prophètes sont importants, la qualité d'une société se juge dans la manière dont, alors qu'elle produit des marges, elle va malgré tout ne pas oublier ou faire comme si ces marges n'existaient pas parce qu'elle est en train de construire la société parfaite de la consommation totale et que finalement il n'y a plus de pauvres. Et s'ils sont là, c'est parce que c'est leur faute. Donc ne pas faire de la victime ou du pauvre une personne exceptionnelle parce qu'elle est victime ou pauvre, mais comprendre que dans le visage du pauvre et de la victime, il y a quelque chose de fondamental qui se passe dans la société parce qu'il y a un dérèglement. Alors même qu'on a un modèle superbe de socialisme avancé ou je ne sais pas quoi, de libéralisme poussé. Bref, les modèles produisent des marges et c'est ces marges-là qui sont l'avenir de la société si on est capable de ne pas oublier le cri, c'est-à-dire le fait que ces gens existent. Je vais aller plus loin. Ce qui est fondamental dans la relation, c'est que précisément, la face de l'autre qui me fait face est l'expression de la pauvreté. C'est-à-dire je veux dire d'une autre manière, il est en train de mourir devant moi, il faut que je fasse quelque chose pour l'empêcher de mourir, pour reprendre Lévinas. Mais ce n'est pas la pauvreté réelle, ça peut être un riche. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque personne, quelque part, est pauvre parce que chaque personne est mortelle. Et je dois respecter l'un et l'autre. Mais savoir que chez l'un et chez l'autre, il y a toujours une pauvreté ontologique, parce que la mortalité est inscrite entre elles, et que quelque part c'est insupportable, je ne veux pas le laisser mourir.
On a l'éternité devant soi. Non, c'était pour réagir à... Parce que c'est venu plusieurs fois, et moi ça me touche très fort, et je pense le père Étienne Michelin en a parlé aussi plusieurs fois. Vous avez demandé, est-ce qu'il y a moyen au niveau, je dirais, des hommes de bonne volonté, et aussi, je dirais, comme Hans Küng a dit, il n'y aura jamais d'éthique universelle sans qu'il y ait rapprochement, écoute, collaboration des religions. Je crois qu'il touche quelque chose de vrai là-dedans, et donc nous devons faire attention à ça. Mais moi, je trouve que, de ce point de vue-là, il y a un texte dans l'évangile de Matthieu qui... nous laisse toujours éberluer, c'est quand même Matthieu 25, le jugement dernier. Parce que, effectivement, dans ce texte, à première vue, et il faut naturellement regarder de plus près, mais le jugement dernier sur nos vies, c'est naturellement dans la cohérence de l'amour, mais c'est pour nous dire qu'est-ce que vous avez fait aux plus petits. Il n'est pas question de religion, d'appartenance religieuse, culturelle, etc. Il y a là d'ailleurs quelque chose qui pourrait intéresser la loi naturelle au sens où Jésus pousse l'universalité dans le concret jusqu'à sa plus grande universalité, les petits. Et donc je trouve que si effectivement nous nous sommes demandé qu'est-ce que nous pouvons faire pour la justice dans le monde, ensemble, religion, homme de bonne volonté, je trouve qu'avoir devant soi ce jugement dernier, Matthieu 25, qui nous bouleverse toujours, est extrêmement important. Gandhi a dit une fois, si vous vous demandez ce que vous avez à faire, hein, c'était un projet entre guillemets social, politique, etc., Il a dit, mettez-vous devant les yeux l'homme le plus pauvre que vous connaissez et demandez-vous si ce que vous allez faire va lui être de quelque bénéfice, de quelque utilité. C'est Matthieu 25. Mais ce qui était intéressant, c'est que Gandhi s'est engagé dans un projet politique national. Donc, je dirais, le domaine le plus controversé, comme Thierry l'a dit aussi, c'est la question de la justice. Parce que comme chrétiens, parfois nous sommes tentés d'oublier les médiations, notamment politiques, éducationnelles, institutionnelles. Je dirais l'Église a fait peut-être beaucoup de choses là-dedans, mais c'est vrai que nous devons nous rappeler que l'amour, le politique, comme disait Pie XI, le politique est le domaine de la plus grande universalité de la charité. Et donc nous ne devons pas oublier qu'aimer le petit, eh bien ça doit passer nécessairement par le politique. Voilà. Donc, et je voulais dire en fin de compte, moi j'ai l'impression aussi que, moi j'ai découvert ici que l'anthropologie de la loi naturelle et de tout ce que nous avons à faire, c'est quand même finalement que l'homme est une question pour lui-même. Il n'a pas une définition, quelque chose qui en sert, mais nous sommes toujours de nouveau exposés à la question « Qui es-tu ?» Parce que, comme on a dit partout, nous sommes des tâches pour nous-mêmes. Qui es-tu et qu'est-ce que tu as à devenir? Et en même temps, Jésus est venu, me semble-t-il, nous donner une réponse à ça. Qui es-tu, mais qui pose la question? Finalement, Dieu, hein, nous le voyons bien à travers la Genèse. Et moi, ça me frappe toujours, c'est qu'il y a quelque part une réponse dans l'Évangile. C'est Pilate qui la donne, Jésus, au tribunal et dit, voici l'homme.
Effectivement, par rapport à la notion de justice, en fait, elle rejoint la notion d'entraide interculturelle, interconfessionnelle, cette nécessité d'établir des passerelles, des modes de collaboration. Et moi, je ramène, à travers ma compréhension de mes textes, tout cela à la transcendance, à l'élévation vers Dieu, au fait que l'homme doit impérativement se dépouiller de son égoïsme pour s'élever vers Dieu et rayonner autour de lui. Le pauvre, en fait, en islam, disait notre ami, il s'agit moins d'avoir pitié de lui que d'avoir pitié de soi-même, de cet enfer égotique dans lequel l'homme accepte de vivre en ne pas aidant son proche. Dieu nous dit dans cette sourate le repentir, Tauba, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Prélève de leurs biens, sadaqa, zakat. Étymologiquement parlant, c'est une manière de purifier, d'où le fait d'appeler cet impôt purificateur, donc qui purifie l'âme et qui en même temps purifie les relations sociales entre les classes, entre les différents degrés de richesse. Khud min amwal, prélève de leurs biens, de leurs richesses, un impôt avec lequel tu les purifies personnellement et collectivement. Moins de biens, plus de liens. Donc, on demande à l'homme de concéder un tant soit peu de ses biens, un 40e, 2,5% de sa richesse, pour créer davantage de relations, de charité et cet impôt, c'est un dû, c'est pas une obole, c'est pas une aumône, c'est une obligation, c'est une pratique fondamentale du culte islamique. Donc cette notion d'approcher la pauvreté. Un maître spirituel, quand il recevait les pauvres au moment de la zakat, de l'impôt, pour donner l'impôt, il leur disait « Bienvenue au colporteur de mes hasanat, de mes bons points jusqu'à Dieu ». Donc c'est, il voyait en eux les transporteurs, les livreurs de ces hasanat, de ces bons points, pour les acheminer jusqu'à Dieu. Donc c'est eux qui lui rendaient service, qui l'aidait à se libérer de son égoïsme et de là de s'élever vers Dieu. Deuxième chose, pour ce qui est du projet, parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure, pour pas trop monopoliser, j'ai reporté très rapidement. En fait, dans ma manière de vivre ma foi, je pense que l'homme, comme je l'ai dit hier, est entre justement ces deux moments, une mémoire à laquelle il nourrit cette nostalgie, qu'il chérit, ce moment initial pré-éternel d'excellence, de rectitude, et le projet de recouvrer ce moment. Donc, le cheminant n'est pas censé être bourré de convictions. Les convictions sont les ennemis de la vérité. Il, initialement dans son départ et dans son voyage initiatique vers Dieu, il démarre avec une copie erronée. Et la vérité, c'est une copie, c'est une erreur, plusieurs fois corrigée. Voilà. Donc à chaque fois, à travers l'expérience, à travers le cheminement, Dieu se dévoile à lui et dévoile pour lui une partie de la vérité révélée. Et je termine sur ça. Dans ma manière d'approcher le dialogue interreligieux, en fait, moi, je le conçois pas comme une réciprocité mesquine, une manière pour promouvoir un faire société ensemble, quoique c'est important, mais je le conçois plus comme un cheminement vers Dieu, disait Gustave Thibon dans son petit livret d'aphorismes et de sagesse, L'échelle de Jacob, un théologien chrétien autodidacte qui n'est pas passé par l'école. Donc il dit, cassant les passerelles, donc ces passerelles qui sont censées nouer d'entre les hommes, et établissant les échelles qui nous élèvent vers Dieu, parce que c'est dans l'ascension que nous convergerons vers Dieu et que nous recouvrons notre unité. Inch'Allah.
L'heure tourne, donc nous sommes obligés d'arrêter. Je dis un grand merci à tous les intervenants d'être venus.